Astia, Assurance et Banque. Les archives d'Afrique. À la Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
On nous dit, on nous parle en parlant de démocratie, comme on nous a parlé en parlant d'économie, comme si les peuples africains naissaient aujourd'hui. Mais les peuples africains ont toujours existé. Nos rois, nos chefs coutumiers, nos chefs de tribu, eh bien, ils avaient le sens de la démocratie, c'est-à-dire protéger tout le monde, protéger sous ses sujets et mettre en place un processus consensuel. C'est ça la démocratie.
S'il dénonce le diktat, la pression exercée par la France sur les nations africaines pour qu'elles fassent des efforts dans le sens de l'instauration de la démocratie, s'il refuse les leçons de François Mitterrand faites à la bolle, c'est parce qu'il estime que depuis son accession à la tête du Rwanda, depuis 17 ans, il a fait des efforts pour préserver la paix, pour mettre fin aux violences ethniques qui ont émaillé l'histoire du pays des mille collines, coincé entre le Congo et la Tanzanie. Pas question donc pour lui d'accélérer le processus ou de se faire imposer un rythme par Paris, même s'il entretient d'excellents rapports avec le chef de l'État français. Pourtant, en cette seconde moitié de l'année 1990, un événement inattendu va bouleverser à la fois ses plans, mais également ses convictions. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Juvénal Abiarimana. Septembre 1990. Le président Juvénal Habyarimana et son épouse sont en visite aux États-Unis d'Amérique. Ils assistent au sommet des chefs d'État pour la protection de l'enfance. Le chef de l'État ougandais, Yoweri Museveni, assiste lui aussi à cet événement. À plus de 8000 kilomètres de là, la nuit est tombée sur le Rwanda lorsqu'une colonne armée dont certains n'ont même pas pris la peine d'ôter leur uniforme ougandais force la frontière et entre en territoire rwandais. Le colonel Rizatira, le secrétaire général de la défense du Rwanda.
Nous avons été attaqués, on n'identifie pas encore les assaillants. Tout ce qu'il y a, c'est qu'ils portent des uniformes qui ressemblent à ceux de l'armée ougandaise.
On parle aussi de soldats venant du Burundi, du Zaïre et de Tanzanie.
Mais je ne sais pas encore, parce que ils sont venus, ils sont maintenant aux prises avec nos forces armées. Les forces sont évaluées entre 5 et 10 000 hommes qui sont entrés dans le nord du pays.
Ils se dirigent vers la capitale ?
Ils sont sur l'axe du nord vers la capitale, mais ils ne sont pas encore dans les environs de la capitale. Ils se trouveraient à 150 km.
Au nord de Kigali ?
Au nord-est. Ils sont armés d'armes lourdes, de mortiers, de mitrailleuses, de véhicules blindés.
Le président Juvénal Habyarimana est aussitôt prévenu de cette invasion. Il appelle son homologue, qui lui dit qu'il a été réveillé à son hôtel par ses services. On lui a fait comprendre que les Kinya Rwanda Boys désertaient et qu'ils sont surpris par l'ampleur et la rapidité de la désertion. Dans le même temps, il conseille en douce à son ami Juvénal Habyarimana de demander l'asile aux États-Unis d'Amérique. C'est une alternative que n'envisage même pas le chef de l'État rwandais. Il organise plutôt la riposte. Il faut stopper l'avancée de ces troupes qu'ils vont rapidement identifier comme étant du FPR, le Front Patriotique Rwandais, mouvement de guérilla Tutsi créé en décembre 1987 en Ouganda voisin.
Le couvre-feu sur l'ensemble du territoire du Rwanda. Le pays a subi ces deux derniers jours une violente offensive des forces rebelles venues d'Ouganda. Elles ont pénétré dans le nord-est du pays et se seraient emparées de la localité de Garibo. Environ 2000 hommes, puissamment armés et dirigés par un ancien officier supérieur de l'armée ougandaise nommé Fred Rwigema, un homme qui avait été chassé de son poste l'année dernière par le président ougandais Yoweri Museveni, qui l'accusait de corruption. L'armée gouvernementale a déclenché dès hier matin une contre-offensive pour stopper l'avance des assaillants. Alors, comment tout cela est arrivé, Dominique de Courcelles ?
Les rebelles se seraient emparés de la ville de Gabiro, située à une centaine de kilomètres de Kigali, et de violents combats se poursuivaient toujours hier soir, peu de temps avant le couvre-feu. Toute la journée, d'importants renforts de troupes ont quitté Kigali pour le nord et dans le même temps, des centaines de réfugiés, surtout des femmes et des enfants, faisaient le chemin inverse et affluaient vers la capitale. Aucun bilan officiel n'a encore été donné sur les affrontements, mais on parle de nombreuses victimes, aussi bien du côté des troupes gouvernementales que du côté des assaillants. À 7h, guère de précision non plus sur l'identité des rebelles qui ont déclenché l'offensive de lundi matin. D'après le secrétaire général de la défense rwandaise, il s'agirait d'individus combattant sous l'uniforme de l'armée ougandaise. Selon Roger Winter, le directeur du comité américain pour les réfugiés, ces rebelles seraient des réfugiés rwandais en Ouganda, essentiellement des Tutsis. Ils seraient commandés par Fred Rigyema, ancien adjoint du commandant-en-chef de l'armée ougandaise, et qui aurait été démis de ses fonctions il y a un an sur pression du gouvernement rwandais qui le voyait comme un élément dangereux parce que Tutsi. Cette tentative armée est un geste suicidaire, a déclaré Roger Winter, un geste sans doute provoqué par le refus de ces réfugiés Tutsis de se faire intégrer définitivement en Ouganda.
Cette attaque éclair va déstabiliser pendant un moment la défense rwandaise qui a du mal à réaliser ce qui se passe. Charles Jeanneret, un des conseillers du président Habyarimana, qui ne va apprendre l'attaque que le lendemain lors d'une réception à l'ambassade de Chine.
On m'avait demandé si je savais que des camions rwandais avaient été interceptés du côté ougandais après le poste frontalier de Kakitumba. Et moi, j'ai dit non, on n'est pas au courant. Enfin, et quand j'ai dit, c'est le lendemain matin qu'on avait appris qu'un détachement militaire ougandais était entré dans le pays. Et puis ils avançaient très rapidement, parce que nous, disons, le Rwanda n'était pas réellement prêt, on ne s'attendait pas à cela. Le président, comme je vous ai dit, était aux États-Unis, la moitié des ministres étaient en mission ailleurs. Et puis le président n'est rentré que le 3 octobre, dans la nuit, je pense, du 3 octobre. Il avait trouvé un avion, il n'avait pas d'avion immédiatement, donc comme il était aux États-Unis. Et puis le 5 octobre, je crois, s'est adressé au pays.
Juvenal Habyarimana, qui n'a donc pas d'avion, après avoir téléphoné à quelques-uns de ses homologues, tels le maréchal Mobutu et les responsables belges et français, va finalement trouver une place dans le Concorde qui l'amène à Paris pour qu'il prenne un autre vol pour Kigali. C'est pendant son escale à Paris qu'il va obtenir, dans le salon de l'aéroport, une assistance militaire française au Rwanda. Dans la foulée, il va se rendre en Belgique pour rencontrer le roi Baudouin et le premier ministre belge. Peter Verlinden, journaliste responsable du service étranger de la télévision publique flamande, la VRT.
Il ne faut pas oublier que le Rwanda ne disposait pas d'une armée vraiment avec beaucoup de possibilités, avec beaucoup de potentialités. Le Rwanda disposait d'une armée de quelques milliers de militaires seulement, surtout parce que la Belgique et, si je me rappelle bien, aussi la France avaient demandé au régime rwandais d'Habyarimana de ne pas dépenser trop d'argent à l'armée, d'utiliser l'argent disponible pour développer le pays, pour l'enseignement, etc., etc. Et en contrepartie, la Belgique, aussi bien que la France, avait promis au Rwanda que si jamais il y a un problème de sécurité, que les Belges, que les Français interviendraient. Ce qui est plus ou moins passé après l'attaque qui est venue de l'Ouganda par l'FPR.
Le président Juvenal Habyarimana.
J'ai demandé surtout à la France un appui diplomatique pour faire comprendre à ceux qui envoient ces éléments et à ceux qui envoient les renforts pour les soutenir, de faire cesser les agressions contre le Rwanda. Dans le cadre d'initiative belge, la Belgique estime que pour contrôler réellement une cessation de combat, il faudrait une force de contrôle. Nous appuyons cela. La Belgique pensait que l'Europe occidentale peut mettre en place cette force, c'est une force de dissuasion, pas une force de contrôle. C'est dans ce sens-là que j'ai discuté avec le président Mitterrand. Le président Mitterrand ne s'est pas prononcé sur ce problème puisque l'initiative appartient à la Belgique. Je pense que c'est la Belgique qui développera cette idée et qui demandera le concours de ses pairs.
Peter Verlinden.
Mon ministre était dans l'OTAN en faveur d'une intervention belge, de la même chose que la France est intervenue pour empêcher l'FPR de conquérir le pays. Mais le gouvernement belge était divisé. il y avait aussi certains partis politiques, surtout les socialistes, qui ne voulaient pas que la Belgique se mêlait dans une guerre en Afrique. Et c'est pour ça que l'intervention belge qui est venue s'est limitée à seulement évacuer les Belges sur place pour leur garantir leur sécurité. Ils sont retournés en Belgique, enfin pas tous, mais un grand nombre. Les Français sont restés et les parabelges, après quelques semaines ou quelques mois, ça ne, je me rappelle plus exactement, ils sont retournés.
Charles Jeanneret, conseiller du président Habyarimana.
Comme ils n'étaient pas réellement prêts, puis ils n'avaient que 5000 personnes, n'est-ce pas? En face, il y avait une armée de plus de 100 000, je crois. Évidemment, le FPR est avancé très rapidement vers Kigali. À un moment donné, je crois qu'il y a eu une contraction, ils ont pu stopper cette avancée. Et puis pendant deux ans au moins, ils ont pu donner le nord en fait du pays, de sorte que tout le nord était dépeuplé. Il y avait 1 million de réfugiés à Kigali, à peu près, 980 000 d'après la Croix-Rouge.
Peter Ferlin, journaliste responsable du service étranger de la télévision publique flamande, la VRT.
Au moment de l'attaque de l'FPR en octobre 90, nous avons fait, je veux dire, nous, le ministre belge de la coopération dans l'OTAN, ensemble avec quelques membres de son cabinet, comme moi-même, nous avons fait un tour dans le nord du pays. Et à ce même moment, nous avons été informés, surtout par des Belges, par des missionnaires, par des Européens qui se trouvaient là-bas, qu'il y avait eu des tueries en masse par l'FPR. Le ministre belge dans l'OTAN, André Gaines, il a écrit un rapport là-dessus, qu'il a présenté à son gouvernement. J'ai repris des extraits de ce rapport dans un de mes livres, mais c'était très, c'était presque pas connu. Et on n'osait presque pas parler de cela parce que l'opinion publique ne voulait pas croire, les journalistes ne voulaient pas croire que ça se passait. Et en plus, les gens qui nous informaient ne voulaient pas en parler trop ouvertement parce qu'ils craignaient de nouveaux attaques.
On n'ose pas le croire parce que la presse, elle aussi, a été conditionnée, sensibilisée par la situation des nombreux réfugiés tutsis, ceux qui vivaient depuis longtemps en exil dans les pays voisins. La guerre va, dans cette première moitié du mois d'octobre 1990, bénéficier d'une large couverture médiatique. Il faut dire qu'elle va faire également beaucoup de morts et que les différentes parties, notamment le Front Patriotique Rwandais, a mis en place un remarquable outil de communication. La presse garde en mémoire les précédents massacres des Tutsis. Cette guerre qui s'accompagne d'actions de guérilla va offrir aux populations l'occasion de s'attaquer, de s'en prendre aux populations Tutsis soupçonnées de collusion avec l'ennemi. En réalité, ces attaques ne sont pas de nature à apaiser les tensions ethniques dans la population rwandaise au cours de ce mois d'octobre 1990. Les Tutsis de la commune de Kibilira vont faire l'objet d'exactions. Il vaut mieux ne pas être soupçonné d'appartenance au FPR. Même le simple fait d'être Bagogwe, une ethnie apparentée aux Tutsis, va leur coûter très cher. Les représailles vont faire jusqu'à 500 morts.
Je vous le disais à l'instant, situation toujours confuse au Rwanda, un pays qui est coincé entre le Zaïre, l'Ouganda et la Tanzanie. Apparemment, les combats se poursuivent entre l'armée et les rebelles du Front Patriotique. Depuis le 1er octobre, les forces rebelles venues d'Ouganda ont envahi le nord du pays. Plusieurs milliers de civils auraient été massacrés par l'armée régulière. Nous allons essayer de faire le point ce soir grâce à l'une de nos équipes qui rentre de Kigali. Leur reportage est signé Philippe Boissery et Franck Brisset pour les images.
Cet homme clame sans doute qu'il n'est pas un rebelle, mais personne ne comprend sa langue. En guise de prisonnier, les autorités rwandaises n'ont réussi à présenter à la presse internationale qu'une vingtaine d'Ougandais. Les rares qui parlent anglais sortent un passeport, un permis de travail, expliquent qu'ils n'ont rien à voir avec ces armes exhibées un peu plus loin. Un militaire filme la scène pour prouver sans doute qu'ils ont pu s'exprimer librement. Pendant ce temps-là, 3000 autres prisonniers croupissent officiellement dans les prisons de Kigali, sans motif pour la plupart. Un Rwandais souhaite témoigner anonymement. Il s'affirme Tutsi, l'ethnie minoritaire. Une information facile à vérifier, puisqu'ici l'appartenance ethnique figure sur la carte d'identité.
On m'a attrapé, hein ? On m'a frappé, on m'a fouillé et on m'a menacé, hein ?
Et alors, hein? Après, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a relâché? On vous a emmené quelque part?
Oui, on m'a emmené au stade. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait que des Tutsis.
Les Tutsis sont en effet considérés comme les instigateurs de la rébellion. Chassés du pouvoir il y a 30 ans, cette minorité s'est alors expatriée dans les pays voisins. Et les sanglantes guerres tribales avec les Hutus majoritaires ne sont pas oubliées. Pourtant, les rebelles venus d'Ouganda affirment refuser toute idée de revanche ethnique.
C'est vrai qu'ils ont un projet politique d'union nationale Mais c'est vrai aussi qu'étant guidés par des Tutsis, ils provoquent inévitablement dans la majorité Hutu du pays une réaction de défense tribale. De ce fait, il y a de très gros risques, effectivement, que cette réaction, qui d'ailleurs s'est produite déjà dans le passé, entraîne une panique aveugle et qu'on assiste à des débordements.
Cette crainte d'une nouvelle guerre tribale, beaucoup ici la partagent. Mais dans l'immédiat, la préoccupation principale est de trouver à manger.
Ce sont des stocks qu'on est en train de
vider.
Oui, on a dit tonnes seulement. On les a distribués à la population. Demain, on n'aura rien.
Les assaillants tenant la principale route d'importation, la pénurie menace de s'éterniser. De quoi rappeler que le pays connaît depuis longtemps une autre guerre, celle contre la faim. Officiellement, 500 personnes en sont mortes depuis le début de l'année. Sans parler du sida, qui toucherait déjà près de 15% de la population. La devise du pays, unité, paix, développement, évoque donc aujourd'hui plus que jamais un rêve impossible à réaliser.
C'est vrai que dans un premier temps, la presse va surtout montrer la réaction des autorités de Kigali, notamment les arrestations de Tutsis soupçonnés à raison ou à tort de complicité. Charles Jeanneret, conseiller du président Habyarimana.
Vous allez vérifier le New York Times du 2 octobre, c'est l'apologie de la guerre. 2 millions de Tutsis qui se massent aux frontières, qui veulent revenir chez eux.
La stratégie de la guerre éclair souhaitée par le FPR n'a finalement pas marché. Mais il occupe une bonne partie nord-est du Rwanda. Et dans la bataille, il a perdu quelques officiers importants de son commandement. Le général Fred Rigwema, qui menait cette armée, est mort dans des circonstances non élucidées. La seconde étape de cette bataille va être la guérilla. Dix jours après l'attaque, le président Museveni est de retour en Ouganda. Devant les diplomates, il va avouer dans un premier temps qu'il avait été tenu au courant des préparatifs de l'invasion du Rwanda. Mais, ajoute-t-il, comment peut-on arrêter des gens parce qu'ils discutent de comment ils vont retourner dans leur pays? Il fait remarquer que certains dans ces troupes font partie des meilleurs éléments. Cette attaque du FPR qui s'éternise, qui installe l'insécurité dans le pays, au-delà de la haine et du rejet du Tutsi qu'elle va amplifier, va également fragiliser le régime d'Habyarimana. L'aile dure du parti dénonce son laxisme, ce qu'elle considère comme sa faiblesse vis-à-vis des Tutsis. Des velléités de sédition ou d'émancipation se multiplient dans le camp présidentiel. La pression s'accentue sur lui. Les Hutus radicaux veulent une réaction plus forte, plus énergique. André Guichawa, universitaire et témoin expert du Tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR.
La bascule, à mon avis, a eu lieu au cours de l'année 90. Il y a une chose à laquelle très peu de monde a fait attention, mais il ne faut pas oublier que c'était, je crois, le 7 septembre 90, c'est-à-dire 3 semaines avant l'attaque du FPR, il y a eu la visite du pape Jean-Paul II. Cette visite a été pour l'essentiel consacrée à des débats sur la réintégration des réfugiés d'Ouganda. Bon, et ça, je crois que ça a été un élément extrêmement fort dans le ressentiment qui a été vécu à l'intérieur au moment de l'attaque du FPR. Parce que tout le monde avait l'impression que des efforts indéniables avaient été faits. Dès le début octobre, devaient être mis en place les premiers groupes de retour qui avaient été négociés par le HCR. Et l'Église a été extrêmement choquée que cette attaque ait lieu juste après que Jean-Paul II soit venu et apparemment obtenu de Juvénal Habyarimana des avancées.
Même si l'on parle surtout du soutien des populations de son ethnie dont il bénéficie, des Hutus qui réclament une plus forte réaction de sa part, le président Habyarimana doit faire face aux critiques, à la pression de la communauté internationale, échaudée par les images, par les arrestations et les massacres de Tutsis évoqués par les médias internationaux. Elle demande la libération des prisonniers politiques. Le chef de l'État rwandais doit lâcher du lest s'il ne veut pas perdre ses appuis. Mais comment va-t-il procéder pour ne pas perdre le précieux soutien des siens? Comment va-t-il manœuvrer pour ne pas perdre le pouvoir tout simplement? A-t-il les moyens de vaincre cette armée qui tient le nord-est de son territoire et qui bénéficie du soutien logistique de l'Ouganda?
On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale juvénale à Biarimana. Juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
Religion. Les Archives d'Afrique. Alain Foucault.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Depuis 86-87, j'ai rencontré toutes les forces vives du pays, j'ai rencontré les agents de l'État de toutes les catégories, j'ai rencontré les opérateurs économiques, j'ai rencontré les banquiers, j'ai rencontré les administratifs, les bourgmestres. Après cette concertation, et spécialement depuis le 5 juillet 90, j'ai estimé nécessaire de donner les orientations pour un adjournamento politique, pour une auto-évaluation, une remise à jour politique.
Cet aggiornamento politique, cette remise à jour, n'a visiblement pas pris, puisque seulement quelques mois après, la contestation politique gronde à nouveau. Il faut dire que l'attaque et l'occupation par les rebelles du FPR, le Front Patriotique Rwandais du nord-est de son territoire, a fragilisé son régime. Il a mis fin au processus de démocratisation qu'il avait entrepris. La priorité semble désormais ailleurs. Il faut répondre à cette attaque qui a fait près d'un million de déplacés à l'intérieur même de son territoire. Des Rwandais qui vivent dans des camps à Kigali. Il faut également stopper l'avancée de ces assaillants soutenus par le voisin ougandais. Voilà ses principales urgences. Du moins, c'est ce qu'il croit. Mais comment, dans le même temps, empêcher la revanche, retenir la colère des populations hutues qui estiment pour certains que les Tutsis sont responsables de ce chaos? Autre équation à résoudre. Suite de notre série d'Archives d'Afrique consacrée au président Juvénal Habyarimana du Rwanda. Après l'attaque des rebelles du FPR en octobre 1990, qui occupe le nord-est du pays, qui a fait de nombreuses victimes civiles et des centaines de milliers de déplacés, la réplique, la réaction des populations, notamment Hutu, a également été brutale vis-à-vis des populations Tutsis. Une nouvelle flambée de violence qui fait la une des médias internationaux. Le régime du président Habyarimana est montré du doigt. Le spectre des massacres des Tutsis plane sur le pays. Sous la pression de la communauté internationale, le chef de l'État doit faire montre de souplesse. On réclame la libération des prisonniers politiques. La fin du parti unique aussi. L'instauration de la démocratie. Il a besoin de l'aide des grandes puissances pour se défendre, pour lutter contre le FPR qui ne cède pas un pouce de terrain. Au contraire, même si la guerre éclair n'a pas donné les fruits attendus, même si le FPR ne progresse plus vraiment sur le terrain, la guérilla qu'il a adoptée fait de plus en plus de dégâts. Le régime Habyarimana va organiser les procès des détenus de la guerre d'octobre, à l'issue desquels 7 personnes sont condamnées à mort pour complicité avec le FPR. Dans le même temps, 5000 détenus sont libérés par grâce présidentielle, ce qui suscite de l'incompréhension dans son propre camp. Il invite les réfugiés rwandais à retourner au pays.
Tout en réaffirmant que le problème des réfugiés rwandais est d'abord un problème du gouvernement et du peuple rwandais, convaincu que personne ne doit rester éternellement réfugié et léguer cette étiquette anathématique de réfugié à sa descendance, le gouvernement rwandais réitère aujourd'hui les engagements pris d'une manière irréversible en vue d'une solution durable et définitive du problème. Ainsi, le gouvernement rwandais reconnaît que le rapatriement volontaire est un droit légitime des réfugiés rwandais et qu'il constitue un facteur de paix et de réconciliation.
Ces décisions, ces appels au retour des réfugiés, considérés par certains Hutus extrémistes comme une faiblesse, un recul, une capitulation, ne contribuent pas à renforcer son pouvoir auprès des siens. Habyarimana doit également faire face à une contestation intérieure, tant dans son camp qui ne le trouve pas assez dur vis-à-vis de l'agresseur, que dans celui des Tutsis qui ont compris qu'ils doivent profiter de ces projecteurs braqués sur leur pays pour occuper des espaces. Mais il doit dans le même temps faire face à une partie de la classe politique nationale qui estime que le moment est venu de réaliser l'ouverture entamée avant cette attaque.
Dernièrement, j'ai mis en place une commission de synthèse, il y a à peu près 2 ou 3 semaines ou 1 mois, pour élaborer une charte nationale. Cette commission de synthèse est à l'œuvre, il s'est réuni déjà une fois, il aurait fait davantage si nous n'avions pas connu les incidents que nous avons connus dans notre pays, mais en tout cas je l'ai encouragé dernièrement à poursuivre. Voilà donc comment nous concevons cette ouverture politique sur le plan intérieur. Et depuis déjà quelques jours, j'ai dit que je suis prêt à ouvrir davantage cette commission de synthèse, même aux Rwandais qui sont à l'extérieur.
Malgré cette bonne volonté affichée, ces promesses d'ouverture, la pression sur le président Habyarimana ne fait que croître. Si les deux parties parviennent en mai 1991 à une trêve concertée, elle ne signifie pas pour autant un retour à la normale. C'est sur le plan politique que s'exerce la charge. Juvénal Habyarimana doit se résoudre à instaurer le multipartisme contre lequel il s'insurgeait moins d'un an plus tôt.
Je n'étais pas réservé au sommet de la Baule. J'ai dit que l'évolution politique, comme toute évolution, doit tenir compte des réalités des pays africains. Et c'est ce que je continue à penser. Et depuis déjà janvier 89, nous avons mis en place un groupe de réflexion. J'ai d'abord lancé l'idée d'une réflexion profonde pour voir comment réformer notre système politique. Mais ma pensée au départ, c'était de restructurer à l'intérieur même de notre parti unique, de façon à ce que toutes les tendances puissent être respectées et puissent s'exprimer. Et plus tard, le 5 juillet 90, j'ai fait des pas de plus en disant que nous devions nous ouvrir au multipartisme. Et j'ai mis en place, dès septembre 90, une commission nationale de synthèse pour nous fixer les paramètres et faire une consultation nationale pour voir comment les Rwandais veulent cette démocratie. Il en est résulté un travail qui vient d'être déposé devant l'Assemblée nationale pour pouvoir amender la Constitution et pour voter une loi régissant les partis. De façon que d'ici un mois, j'ai demandé que d'ici un mois, fin mai, début juin, ceux qui veulent fonder leur parti politique puissent les fonder. Voilà la genèse de cette ouverture que nous avons conçue nous-mêmes et à laquelle ont contribué tous les Rwandais qui le désiraient.
Une ouverture démocratique qui, évidemment, traduit la difficulté, l'opposition à laquelle ils doivent faire face. La nouvelle constitution instaurant le multipartisme est votée le 10 juin 1991, et la loi sur les partis politiques, le 18 juin de la même année. Le MNRD, l'ancien parti unique, celui de Juvénal Habyarimana, va donner une nouvelle signification à son cible, Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement. Après la promulgation de la loi sur les partis politiques, 3 autres mouvements vont naître dans le paysage politique rwandais. Le MDR, le Mouvement démocratique républicain, le PSD, le Parti social-démocrate, et le Parti libéral. Tous, dans un premier temps, se disent contre le FPR, même s'ils rejettent la responsabilité sur le président de la République pour ne pas avoir suggéré le problème qui a causé la guerre. L'opposition intérieure s'organise. Elle attaque frontalement le chef de l'État, lui reproche la gestion du pays contrôlé par quelques dignitaires tout-puissants. Juvénal Habyarimana.
La Constitution révisée prévoit à son article 101, consacré aux dispositions transitoires, la possibilité pour les députés au Conseil national de développement et le président de la République de continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'aux prochaines élections. J'estime que des élections présidentielles et législatives ne devraient pas trop tarder puisqu'il s'agit de légitimer la nouvelle structure dans les meilleurs délais possibles et cela pour des raisons évidentes et dans l'intérêt bien compris de notre pays.
Dès l'instauration du multipartisme, l'opposition veut occuper le devant de la scène. Il s'agit pour elle de faire partir Juvénal Habyarimana, comme c'était d'ailleurs le cas dans la plupart des pays francophones du sud du Sahara dans ces années-là. Elle conteste aussi le premier ministre Sylvestre Sanzimana, que nomme le président de la République. Pas question que le chef de gouvernement soit du MRND, le parti du président. L'opposition qui partage désormais le pouvoir va organiser une gigantesque manifestation les 8 et 15 janvier 1992. Elle réclame une conférence nationale, Rukokoma comme on dit. Elle exprime fort son refus de l'organisation rapide d'élections. La mobilisation est remarquable. Juvénal Habyarimana l'apprécie à sa juste valeur. Il ne peut ignorer ce signal.
Je ne puis quant à moi qu'éprouver une grande fierté que partage, j'en suis sûr, tous les hommes de bonne volonté à voir avec quelle maturité le peuple rwandais a accepté ce multipartisme, même si certaines de ces manifestations nouvelles importées n'ont pu que l'intriguer, voire l'effrayer. Une satisfaction réelle aussi à voir avec quel sens de responsabilité les diverses formations politiques s'étant créées ces derniers mois s'efforcent, malgré la méfiance inévitable, malgré certaines pressions et certaines passions parfois, s'efforcent de respecter les nouvelles règles du jeu démocratique.
Le Premier ministre Sylvestre Nsanzimana est débarqué. On va aboutir le 14 mars 1992 à un accord pour la formation d'un gouvernement de cohabitation. Le chef de l'État demande à l'opposition une liste de 6 personnes pour choisir un premier ministre. Le parti MDR impose son vice-président Dismas Nsengia Rémié. Désormais dans le gouvernement, le MNRD, le parti du président, compte 9 ministres, contre 4 pour le MDR, 3 pour le PL, 3 pour le PSD et 1 pour le PDC. L'opposition est donc majoritaire au gouvernement. Les ministres du parti du chef de l'État vont rapidement être marginalisés. Les délégués du MDR, le parti du Premier ministre, et de Faustin Touangira Mungu vont même se rendre à Bruxelles en mai 1992 pour rencontrer le FPR, le Front Patriotique Rwandais, avec qui ils vont passer un accord et former le Front Démocratique du Changement, le FDC. Ils signent donc avec la rébellion des accords de coopération et d'échange de renseignements. Des accords de paix sont signés le 8 juin 1992, sans que les ministres du MRND soient mis au courant. Cette période correspond aussi à la création de nombreuses milices dont vont se doter la plupart, sinon tous les partis politiques. Enor Ruegiria, ancien ministre à la présidence, puis directeur de cabinet de Juvenal Habyarimana.
Au moment de l'attaque du FPR, le président maîtrisait tout l'appareil, évidemment. On était dans un système monopolitique. Et puis, quand on a commencé le pluralisme politique, le pouvoir s'est décentralisé et les gens, comment dirais-je, c'était un courant, on trouvait des moyens de faire des choses presque dans l'impunité totale, parce que certains même se cachaient derrière les partis politiques. Si vous disiez qu'ils ont fait quelque chose, ils disent, c'est parce que je suis dans tel parti ou pas. Donc, après le multipartisme, en 1991, le président Habyarimana ne contrôlait pas, on n'avait pas le pouvoir qu'on lui attribue. Donc, dire qu'il maîtrisait tous les appareils, ce n'est pas juste.
Juin 1992, le FPR lance une nouvelle attaque, une énième sur la population frontalière du Rwanda. Un nouveau raid qui va faire des milliers de victimes. Il va vider ces régions de ses populations. On estime les déplacés à environ 350 000.
Nous avons des milliers de morts civils. Tous ceux qui se disent parler au nom des droits de l'homme, nous n'avons jamais entendu leur petite voix parler de ces milliers de morts à la frontière avec l'Ouganda. Nous demandons qu'on parle de ces morts et qu'on arrête la guerre. Les gens, certains pays, certaines puissances ont des moyens d'arrêter la guerre et nous leur demandons vraiment qu'ils aident le Rwanda à sortir de ce conflit.
Enor Ruegiria, ancien ministre à la présidence et ancien directeur de cabinet du Juvenal Habyarimana.
Écoutez, le président Museveni est un manipulateur. Pour commencer, le président, je crois qu'il savait qu'il y avait un problème du côté de l'Ouganda. Il a invité le président Museveni au Rwanda et le président Museveni a dit publiquement dans la préfecture de Butare que les gens qui pensaient que le Rwanda sera attaqué à partir de l'Ouganda, ce sont des gens qui ne comprennent rien dans la politique. Mais quand ils ont attaqué en octobre 90, il est passé à Bruxelles, il a dit qu'il connaît ses boys, ses enfants, et que ça ne va pas tarder. La prise du pouvoir, mais le président s'est laissé berner par ses assurances du président Museveni, pour ensuite essayer, quand ils ont attaqué, de le contacter pour savoir s'il peut aider à trouver une solution pacifique. ils ont fait des rencontres à la frontière, à Goma, mais c'était un manipulateur. Hein, mais le président avait compris justement que c'était manipulateur, mais c'était un voisin, qu'est-ce qu'il faut faire?
À chaque incursion du FPR, le Front Patriotique Rwandais, s'ensuit malgré tout une flambée de violence contre les populations tutsies. Christophe Fizi était le directeur de l'Office rwandais d'information. Il va démissionner en 1992 par une lettre ouverte au président Juvénal Habyarimana.
Lorsque j'ai vu massacrer les Tutsis de ma commune Kibilira au début de la guerre, Kibilira était très loin du champ des combats, mais on les a massacrés et les hautes instances, y compris le chef de l'État, était vraiment au courant, j'en suis persuadé, jusqu'au jour où je l'ai interpellé là-dessus et on a fait arrêter le massacre. Et je suis resté très irrité par ça. De manière générale, alors, quand la guerre a éclaté, la manière dont la guerre était gérée, les massacres qui se faisaient par l'armée, tout ça m'a rendu extrêmement...
Si je comprends bien, M. Fizi, vous voulez dire qu'il savait qu'il y avait des massacres ou qu'il commanditait ces massacres et détournait le regard?
Qu'il les commanditait, je ne peux pas l'accuser formellement, il faudrait des preuves, mais qu'il le savait, ça j'en suis certain.
Face aux nombreuses incursions du FPR, qui à chaque fois fait les déplacés, le président Habyarimana se tourne vers la France et la Belgique pour demander leur aide. Il faut en finir avec cette bataille qui chaque jour fait des morts et de nombreux déplacés. Il est à Paris en juillet 1992 pour solliciter le soutien de François Mitterrand.
Eh bien, j'étais venu voir le président Mitterrand et d'autres personnalités françaises pour passer en revue et leur faire part de l'évolution sur le plan économique, évolution sur le plan politique et surtout évolution en ce qui concerne la situation de la guerre. Et nous avons donc demandé que la France continue à nous assister et les autorités que j'ai rencontrées sont tout à fait d'accord.
Si sur le terrain militaire, les deux parties continuent de s'affronter, dans le même temps, elles négocient. Certains pays de la sous-région et les grandes puissances les ont poussés à s'asseoir à la même table pour trouver une solution de sortie de crise. Mais avec la méfiance qui règne, les projets des uns et des autres et les stratégies de certains soutiens, ces pourparlers pourront-ils ramener la paix? Le président Juvénal Habyarimana va-t-il parvenir à se maintenir aux affaires avec la violente charge politique que lui prépare l'opposition avec laquelle il cohabite? Nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Juvénal Habyarimana. Mais tout de suite...
Archives d'Afrique. Le jeu.
Voici venu le moment que beaucoup d'entre vous attendent avec une certaine impatience désormais. Le jeu Archives d'Afrique, le coffret qui vous permet chaque semaine de gagner le coffret Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle, volume 2. La semaine dernière, il fallait reconnaître l'auteur du putsch manqué contre le président Juvénal Habyarimana en 1980. J'ai dit bien, en 1980. Il s'agissait, vous êtes nombreux à l'avoir retrouvé, du colonel Lizindé. Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook et les 5 premières bonnes réponses sur notre répondeur sont Jean-Paul Rutagalama, à Kigali au Rwanda, Jean-Claude Salomon, à Kinshasa en République démocratique du Congo, Amadou Dilalissi, à Pointe-Noire en République du Congo, Guillaume Padi, à Kinshasa en République démocratique du Congo, Koku Maoussi Djobo, à Atapame, au Togo. Olivier Kamana, à Gang, en Belgique. Philippe Bigada Muridahabi, à Kigali, au Rwanda. Nicolas Tchéoubi, à Kové, au Bénin. Emery Ascension Irayumva, à Bujumbura, au Burundi. Wassa Munga, à Nairobi, au Kenya. Voilà pour les gagnants de la semaine qui recevront à leur adresse postale le coffret Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle, avec une dédicace personnalisée. Vous aussi, c'est peut-être votre tour de gagner ce coffret si convoité. La question de cette semaine, où était le président Juvénal Habyarimana lorsqu'il apprend l'attaque par le FPR de son pays en 1990? Où était le président Habyarimana lorsqu'il apprend l'attaque par le FPR de son pays en 1990, les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook et les 5 premières bonnes réponses sur notre répondeur téléphonique au 00331 84 22 93 32. Recevront à leur adresse postale le coffret Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. À très vite. Mais tout de suite, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
Ce magazine vous a été proposé par le groupe Encia, assurance et banque, présent dans 12 pays d'Afrique subsaharienne.